Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bouria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Je vous retrouve une nouvelle fois aujourd'hui, seule derrière mon micro, pour vous parler de quelque chose que beaucoup de personnes ont du mal à entrevoir et qui est pourtant, j'allais dire, fondamental. Être en conflit avec son ex-conjoint, son ex-mari, cela ne veut pas dire qu'il faille absolument aller devant le juge, saisir le juge et se battre comme des chiffonniers. Dans cet épisode, je vais vous expliquer comment obtenir une décision qui aura la même valeur qu'un jugement et qui sera moins coûteuse en argent et émotionnellement. Il y a plusieurs façons de résoudre un différend, un conflit, sans forcément confier le contentieux au juge. Parce que oui, aller devant le juge, saisir la justice, ça coûte beaucoup d'argent parce qu'il faut payer l'avocat. C'est extrêmement stressant parce qu'on reçoit les conclusions de la partie adverse et c'est franchement pas agréable d'être dépeint d'une façon négative. C'est énergivore, ça vous laissera l'un et l'autre ou tous les deux un goût amer dans la bouche, ça va vous laisser énormément de frustration, vous allez vous retrouver dans une situation de grande frustration. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'abord l'aléa. L'aléa, qu'est-ce que c'est ? C'est, et ça je le vois, mes clients quand ils viennent me voir, ils sont persuadés qu'ils ont raison. Ils sont persuadés que leur vision du monde, c'est celle-là et que le juge ne peut pas ne pas aller dans leur sens. Ben non, ça ne marche pas comme ça, parce que le juge, son job, c'est pas de dire « Ah ben oui, elle, elle a l'air bien sympathique, lui, il a l'air pas très cool, je vais donner raison à madame. » Non, le juge, il fait pas ce qu'il veut, il est saisi par les parties, une des parties la plupart du temps, avec des demandes qui sont rédigées dans une requête ou dans une citation. Et puis, il y a les autres demandes, les demandes en réponse, pour résumer. Donc, c'est-à-dire, vous, si vous êtes cité, par exemple, monsieur va dire, bah oui, bah, madame, elle ne s'occupe pas bien des enfants. Moi, je veux l'hébergement principal des enfants. Madame, elle gagne plein d'argent. Donc, moi, j'estime que je n'ai rien à payer. On doit se partager les allocations familiales. On fait 50-50 pour les frais extraordinaires. Et tout va bien dans le meilleur des mondes. Sauf que vous, ben, si ça se trouve, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Vous dites, mais non, les enfants, ils sont trop petits. Ils ne peuvent pas aller chez papa tout le temps. Ils ont besoin de leur maman. Mais ce n'est pas vrai. Je ne gagne pas la même chose que monsieur. J'ai besoin d'une contribution alimentaire pour éduquer, pour nourrir mes enfants, etc. Et donc, voilà, vous allez avoir comme ça un jeu de va-et-vient à travers les conclusions qui sont extrêmement énergivores et émotionnellement destructrices. Il y a autre chose également que je remarque moi dans mes dossiers, c'est que souvent on confond morale et droit. Je vous donne un exemple, il est assez courant, c'est pas exceptionnel. Vous vous faites quitter par votre conjoint et vous vous rendez compte qu'il est parti avec votre meilleure amie. C'est le ciel vous tombe sur la tête, c'est extrêmement violent, c'est votre vie est brisée en l'espace d'un instant, vous êtes en état de choc et vous vous dites à un moment donné, une fois que vous passez par cette phase de colère, vous vous dites mais il va me le payer, c'est dégueulasse ce qu'il m'a fait et du point de vue moral vous avez raison, ce qu'il vous a fait est condamnable. C'est pas très élégant de se barrer avec votre meilleur ami alors que vous étiez dans le même cercle et que tout ce bon monde avait l'air de bien s'entendre. Et en fait, vous vous sentez extrêmement trahi. Et donc, votre réflexe, ce sera de dire « je vais saisir le juge et il va me donner raison et je vais le faire payer ». Et malheureusement, si vous allez devant le juge et que vous tentez de lui expliquer votre histoire en disant « mais il s'est barré avec ma meilleure amie, c'est dégueulasse, et moi je souffre », le juge, avec toute la bienveillance du monde, il vous dira « oui madame, je comprends, mais ce n'est pas le débat ». Et il aura raison de vous le dire, c'est pas qu'il ne vous comprend pas, c'est pas que le juge ne veut pas vous donner raison, le juge ne peut pas prendre sa décision sur la morale, le juge ne peut faire qu'application de la loi. Et malheureusement, aujourd'hui, en Belgique, le divorce pour faute n'existe plus vraiment. Et donc, le juge ne va jamais se positionner sur cette question-là. En revanche, il va se positionner sur toutes les autres questions qui lui seront soumises et il va faire application de la loi et il va utiliser aussi ce qu'on appelle la jurisprudence, c'est-à-dire toutes les décisions qui ont été prises dans des situations à peu près similaires. On a comme ça une série de textes que le juge, bon, en général il les a en tête, mais parfois il doit aller les relire. On a une série de textes qui le guident dans ses décisions. Et ça, évidemment, vous n'êtes pas un professionnel du droit, vous ne pouvez pas le savoir, et donc ça génère une énorme frustration. Et donc, pour ça, moi, je conseille, la plupart du temps, de d'abord essayer de trouver un accord amiable. Il y a plusieurs moyens d'y parvenir. Je vais vous parler tour à tour de la négociation, de la CRA, de la médiation familiale et du droit collaboratif, qui sont une série de techniques qui vont vous permettre d'aboutir à un accord amiable qui aura en bout de course la même valeur qu'un jugement. Alors je sais que quand j'en parle autour de moi et même à mes clients, ça leur paraît lunaire de trancher un litige sans passer par le juge, parce que c'est ce qu'on nous a appris et c'est d'ailleurs ce qu'on voit à la télévision. Dès que on voit dans une série deux personnes qui divorcent, boum, j'ai appelé mon avocat, tu auras des nouvelles de mon avocat. Ben, sauf que on n'est pas toujours obligé de passer par le juge, par l'avocat. Alors je vais quand même vous parlez d'abord de ce cas de figure, parce que parfois, vous avez envie de passer par l'amiable, et puis votre ex, il n'entend pas de cette oreille, il se dit « non, mais je vais en découdre », et donc il consulte un avocat, il fait ça assez vite, et puis vous vous retrouvez avec une invitation à comparaître devant le juge, et je vous dirais que c'est pas foutu. C'est pas parce que vous êtes cité devant le tribunal de la famille que forcément... C'est terminé et que la guerre est ouverte. Bon, ils le font de moins en moins, mais très souvent, les juges vous le disent d'ailleurs à l'audience d'introduction, vous n'êtes pas obligé de me confier le dossier, vous pouvez très bien passer par ces modes amiables pour trouver une solution. Alors, je vais vous faire un bref résumé. En général, en matière familiale, lorsqu'on saisit le juge, on lui confie une série de points à régler. Je ne vais pas tous les citer, mais en général, on va lui demander de déterminer l'autorité parentale, le domicile de l'enfant, son hébergement, c'est-à-dire sa garde, combien de temps il passe chez papa et chez maman, la contribution alimentaire, c'est-à-dire qui paye combien à qui, la répartition des frais extraordinaires et éventuellement, si on est dans le cadre d'un divorce, un devoir de secours et éventuellement une pension alimentaire. Et je vais être franche avec vous, il y a toujours moyen de trouver un accord sur cette série de questions que le juge aura à trancher. L'autorité parentale, il n'y a pas de discussion. Dans 99% des cas, 99% des cas, c'est une autorité parentale conjointe. C'est fini le temps où il n'y a qu'un des deux parents qui prend toutes les décisions et l'autre n'a qu'à les subir. Ça ne marche plus. Le domicile de l'enfant, généralement, l'enfant est inscrit là où il passe le plus de temps. Quand il est petit, bah, c'est souvent chez la maman. L'hébergement, quand ils sont petits, bah, le papa il a un hébergement un tout petit peu moins important et qui va devenir évolutif avec le temps. Et la contribution alimentaire, eh bien là, ce sont une série de calculs que le juge va effectuer pour vous. Alors, revenons au juge. Donc, vous êtes cité à comparaître sur cette série de questions que je viens d'évoquer. Eh bien, on n'est pas obligé de rentrer dans le dur tout de suite et entrer dans des discussions, se disputer par conclusion interposée. On peut tout à fait négocier avec vos avocats, donc à quatre, madame, monsieur et chacun des avocats. On se rencontre et on va discuter chacun des points. Alors l'avantage de discuter avec les avocats, c'est que bah, a priori, ils connaissent la jurisprudence des juges devant lesquels vous êtes censé comparaître. Et donc, ils vont vous dire, bon, là, c'est mort. Là, vous demandez des choses qu'on ne vous accordera jamais. En revanche, si on va sur cette voie-là, on a des chances d'obtenir quelque chose. Et donc, en discutant point par point, on arrive, la plupart du temps, à trouver un accord. Alors, ce n'est pas forcément un accord global, ce n'est pas grave. Si on s'entend sur l'autorité parentale, sur le domicile de l'enfant, sur la manière dont il est hébergé, et très souvent, je vais vous l'avouer, la plupart du temps, on n'est jamais d'accord sur l'argent. Monsieur a toujours l'impression que madame essaye de le dépouiller, et madame va vous dire « Ah, monsieur, il est radin, il ne veut pas payer pour son enfant ». Et donc, là, le job des avocats, ça va être de faire une simulation et d'essayer de couper la poire en deux et d'arriver à un montant raisonnable, compte tenu de ce que coûte un enfant, puisque je ne vous apprends rien, un enfant, ça coûte très cher. Et je vous le disais, on peut déposer un accord partiel, ça veut dire, ben voilà, madame le juge ou monsieur le juge, on est d'accord sur l'autorité parentale, le domicile de l'enfant, son hébergement, etc. Par contre, on n'est pas d'accord sur la contribution alimentaire, on vous confie cette partie-là. Et le juge n'aura que cette question-là à trancher. C'est beaucoup moins stressant, c'est beaucoup plus apaisant de se dire on a quand même réussi, dans l'intérêt de notre enfant, à trouver un accord sur toute une série de, sur toute une série de questions. Alors, je vous le disais, on peut déposer un accord partiel et confier le reliquat au juge, et on peut déposer un accord global, un accord complet sur toutes les questions que je vous ai énumérées il y a un instant. Et je vous dirais que ça va vous apaiser, ça je le vois, quand on arrive à trouver un accord, les parties sont apaisées. Madame et monsieur sont apaisés. Et ça a un effet bénéfique sur les enfants parce que les parents sont détendus. Et quand un parent rentre d'une audience en disant « Ah bah tu sais quoi, avec papa, bah on s'est entendu et on a déposé des conclusions d'accord », ça envoie un message hyper important aux enfants qui est « Chouette, mes parents, ils sont plus ensemble, peut-être qu'ils s'aiment plus, mais... moi je vais être confortable, ça veut dire que je vais pouvoir passer d'un univers à l'autre, passer de maman à chez papa sans avoir du stress chez l'un et chez l'autre. Ça déstresse vos enfants, ça les tranquillise, c'est quelque chose qui à mon sens est vraiment précieux d'arriver à obtenir un accord avec son ex-conjoint sans en passer par la phase contentieuse. Alors, j'avais envie de faire une parenthèse. Je constate parfois que des parties acceptent un accord et ensuite ont l'impression de s'être fait rouler dans la farine, s'être fait avoir. Je le comprends parce que parfois on a l'impression, à cause de l'état émotionnel dans lequel on est, hein, divorcé, se séparer, c'est jamais simple. Et on a l'impression qu'on n'a pas été maître de soi-même et qu'on s'est un petit peu laissé guider. Et en bout de course, on a quand même ce goût amer en bouche de s'être fait rouler dans la farine. Alors je dirais, c'est peut-être juste une sensation. Mais globalement, si vous avez un avocat, il est là pour défendre vos intérêts et il ne vous aurait jamais laissé signer quelque chose qui va à l'encontre de vos intérêts. Et puis, il ne faut pas oublier une troisième chose. En Belgique, nous avons ce qui s'appelle la saisine permanente. Cela veut dire que rien n'est figé dans le marbre. Parce que si votre situation change ou si la situation de l'enfant change, on peut, sans trop de frais, à part les frais d'avocat bien entendu, mais on peut ressaisir le même juge sur simple courrier ou en redéposant des conclusions. Je donne un exemple. Vous avez choisi un hébergement alterné égalitaire et comme vous gagnez à peu près la même chose, il n'y avait pas de contribution alimentaire, vous perdez votre job et vous ne vous en sortez plus. Comme votre situation a changé, vous pouvez ressaisir le juge en disant « Voilà, je n'ai plus de travail, ça fait 6 mois que je cherche, la conjoncture est difficile et pour l'instant, moi, je ne peux pas tout assumer comme ça, j'ai besoin d'un coup de pouce. » Eh bien, le juge va réexaminer le dossier et vous dire si oui ou non, vous avez droit à une contribution alimentaire. Et donc voilà, vous n'êtes pas coincé avec une décision qui ne correspond plus, pour parler en bon français, qui ne correspond plus à votre situation actuelle. Voilà, ça c'est pour la négociation. Quand on est devant le juge, on peut négocier et déposer un accord. Deuxième chose qui est possible lorsqu'on est devant le juge, on peut tout à fait lui demander de nous envoyer en CRA, la chambre des règlements à l'amiable. Alors c'est une chambre particulière du tribunal de la famille qui est présidée par un juge et ce juge ne va pas jouer son rôle habituel de juge, c'est-à-dire qu'il ne va pas trancher, mais il va plutôt jouer le rôle de conciliateur. Il va vous convoquer, il va écouter chacun d'entre vous et il va chercher avec vous une solution. Alors les avantages, vous les voyez, c'est que la personne que vous avez en face de vous, c'est un juge qui par ailleurs tranche des litiges. Donc il connaît les lois, il connaît la jurisprudence. Donc si votre conjoint arrive avec des demandes complètement farfelues, le juge va tout de suite lui dire « Non mais attendez, si vous demandez ça à mon collègue, vous allez vous faire envoyer sur les roses. » Il va vous le dire gentiment, attention. Mais il va vous expliquer « Ah non, ça c'est ok, ça bof. » Et donc il va cheminer avec vous à travers toute cette question et il va essayer de trouver une solution qui est équilibrée pour vous deux et une solution dans l'intérêt des enfants. Toujours, il a toujours en tête l'intérêt des enfants. Mais ici, le juge ne tranche pas, on est bien d'accord. C'est-à-dire qu'il va vous aider à accoucher d'une solution. Il va vous dire, oui, mais là, monsieur, vous ne trouvez pas que c'est un peu peu, là, 100 euros par enfant, alors que vous gagnez 4000 euros par mois? Quand même, vous pouvez faire un effort. Et le juge va prendre sa calculette, par exemple, et vous dire, bah, regardez, un enfant, ça coûte... combien, madame, vous pensez que votre enfant coûte? Ou s'il y a des documents, ah ben, on me dit que les enfants coûtent 500 euros par mois chacun, tout compris, hein. Et donc, il va faire une petite règle de trois, un petit calcul et vous dire, monsieur, moi, si j'étais juge, je dirais plutôt, j'invente, hein, 150. Et il va cheminer comme ça avec les deux parties pour arriver à un accord global. Alors, pour que ça fonctionne, bien entendu, il faut jouer le jeu. Il faut arriver devant le juge avec toutes les pièces, avec toutes ces documentations qui permettent au juge de comprendre quelle est votre situation. Il faut que le juge ait une image claire de votre vie, de vos revenus et de la manière dont les enfants sont hébergés par chacun des parents. Alors pour en savoir un tout petit peu plus, je vous renvoie à l'écoute de l'interview que j'avais faite de Madame Pascale Montero-Barreto, qui est juge au tribunal de la famille de Bruxelles et qui préside l'ACRA à Bruxelles. C'est l'épisode 43 de la saison 3 et je pense que Madame le juge commence à parler de l'ACRA vers la 46e minute si vous n'avez pas envie d'écouter le reste. Vous avez donc la négociation, la CRA. Vous avez également la médiation. Alors, c'est assez méconnu et je trouve ça assez désolant parce que c'est une manière de régler vos litiges qui coûte pas cher et qui vous en coûte beaucoup moins du point de vue émotionnel. C'est-à-dire que vous allez choisir ensemble d'aller voir un médiateur. Si vous êtes déjà devant le juge, vous pouvez tout à fait demander au juge de désigner un médiateur et de vous envoyer chez le médiateur. Et pendant ce temps-là, la procédure est suspendue. Alors, c'est quoi un médiateur? Alors, un médiateur, ça peut être un avocat, ça peut être un psy, ça peut être un notaire. Et le médiateur, il a la particularité que c'est un tiers qui est neutre. C'est-à-dire que le médiateur, il n'est pas là pour vous dire « Ah, madame, vous avez raison. Ah, monsieur, vous avez tort. » Absolument pas, c'est pas son rôle. Le médiateur ne donne jamais son avis. Il est là pour vous... ça va être moche ce que je vais vous dire, mais il est là vraiment pour vous aider à vider votre sac sans insulter l'autre, c'est toujours dans un cadre bienveillant. Il va vous aider émotionnellement d'abord, il va travailler sur votre émotionnel. Parce que je l'ai dit au début de ce podcast, quand on se sépare, c'est émotionnellement extrêmement lourd, c'est extrêmement difficile. On en veut à l'autre pour une série de raisons, parce qu'il nous a quittés, parce qu'il n'a pas fait d'efforts, parce qu'on estime qu'il n'a pas fait d'efforts. Et le médiateur va vous aider à exprimer ces émotions. Parce que très souvent, il y a énormément de non-dits, des difficultés de communication. Et on n'y arrive pas. Alors, ce n'est pas un psychologue, attention. Il n'est pas là, on n'est pas là pour faire une thérapie. Il vient, vous allez le voir et vous allez expliquer comment vous en êtes arrivé là. Et ça lui permet, lui, à ce tiers neutre, d'aller voir, d'aller entreapercevoir, d'aller dégoter vos points communs, finalement. Et souvent, le point commun, il est évident. Vous avez des enfants et très souvent, les parents, ils veulent le meilleur pour les enfants. Mais le meilleur pour l'un, ce n'est pas forcément le meilleur pour l'autre. Et donc, le médiateur va comme ça cheminer avec vous et va faire des allers-retours entre l'un et l'autre et essayer de construire quelque chose qui va être le plus juste pour vous deux et pour l'enfant ou les enfants. Et c'est vraiment, quand je dis cheminer, c'est vraiment ça. Il va s'interdire de prendre position, et ça de toute façon, le médiateur travaille avec un code de déontologie, il ne peut pas faire ce qu'il veut, et il va construire avec madame et monsieur une solution qui convient à tout le monde. D'ailleurs, il y a beaucoup de médiateurs qui travaillent avec des tableaux, c'est très visuel, on fait des schémas sur ce tableau, ou alors on travaille avec des listes. Madame, dans un monde idéal, qu'est-ce que vous voudriez ? Et alors on a une colonne de ce que madame trouve génial, et puis une deuxième colonne avec ce que monsieur voudrait dans un monde idéal. Et alors on va chercher les points communs, et on travaille comme ça jusqu'à aboutir à une solution global. Et ce travail permet d'apaiser les tensions. On arrive à un accord global qui va faire l'objet d'une rédaction. Et ce qui est hyper intéressant dans la médiation, c'est que le médiateur va pouvoir faire homologuer par le tribunal cette entente, cet accord. Et donc vous allez avoir quelque chose qui aura été discuté en toute bienveillance avec votre ex-conjoint et qui va faire l'objet d'un accord global et qui va venir apaiser et apporter des solutions à votre différend si vous n'arriviez pas à résoudre les choses ensemble. Voilà pour la médiation que je trouve franchement une méthode qui fait des miracles. Et à nouveau, il faut jouer le jeu. Si on joue pas le jeu, non, forcément, ça peut pas marcher. Et à nouveau, si la médiation ne fonctionne pas, il n'y a pas de problème. On peut retourner devant le juge et confier au juge son dossier. Alors, la dernière des solutions, c'est le droit collaboratif. Alors, je vais vous en dire que quelques mots, parce que vous commencez à me connaître, je n'aime pas trop parler des choses que je ne connais pas et je ne pratique pas le droit collaboratif parce que je n'ai pas été formée. C'est dans mes projets dans les mois qui viennent. Mais pour schématiser, vraiment, c'est grossier ce que je vais vous dire, mais c'est un petit peu comme la médiation, c'est-à-dire qu'on a un processus qui est confidentiel. Mais j'aurais envie de dire que c'est plus une méthode de travail dans laquelle les avocats sont impliqués, donc les parties et les avocats. Et le deal, c'est qu'on s'engage à trouver une solution qui convient à tout le monde dans la bienveillance et dans l'intérêt des enfants. Donc on va chercher des solutions sans se mordre le nez et dans l'intérêt des enfants. Et donc les avocats là, vont jouer ce rôle-là, et donc ils ont une méthode de travail pour arriver à cette solution en utilisant des méthodes de communication. Ce sont souvent les mêmes qu'on utilise en médiation, hein. C'est réussir à faire parler les gens dans la bienveillance, sans s'insulter, sans être désagréable à l'autre. Alors le seul désavantage que je vois, c'est qu'une fois qu'on est engagé dans un processus de droit collaboratif, c'est que si on n'arrive pas à un accord, les avocats doivent se déporter. Ils ne pourront pas vous suivre dans la phase contentieuse dans le juge. Mais de nouveau, si on accepte de s'engager dans un processus de droit collaboratif, il faut jouer le jeu. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Sinon, on va directement devant le juge et on laisse le juge trancher. C'est un épisode, je vous l'ai dit au début, qui me tient à cœur parce que ce n'est pas utile de se déchirer. C'est pas cool pour les enfants. Et si on peut arriver à s'entendre sans se déchirer, ben, je trouve que c'est vachement plus sympathique. Voilà, vous savez tout. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu, à le noter. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner au podcast via vos plateformes d'écoute préférées. Moi, je vous dis à la semaine prochaine.